Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec autour de la table Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Benjamin Muller et avec Fred Hermel. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour répondre à cette question. Et oui, c'est la Saint-Valentin dans une semaine. Passer toute sa vie avec la même personne, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Si vous avez de belles histoires à nous raconter, surtout, allez-y, ne vous gênez pas. Et si au contraire, vous êtes du genre à papillonner et à ne jamais rester avec la même personne, et bien là encore, allez-y, on vous attend au 32-16. Il y aura bien sûr vers 14h30, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Elisa, c'est une auditrice qui a perdu son mari il y a 2 ans et qui n'arrive pas à toucher sa pension de réversion. Il y aura aussi les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis on vous fait gagner 2 places pour un énorme match sur RMC, Rémi.
Oui, exactement, 2 places tout au long de la journée sur RMC. Dès que vous entendez ce signal, vous aurez alors 5 minutes pour tenter votre chance, gagner 2 places pour le choc OM-PSG en Coupe de France demain au Stade Vélodrome. Vous envoyez foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. Dès que vous entendez ce signal, j'y arrive. Non. Et ça peut tomber à n'importe quel moment tout au long de la journée sur RMC.
RMC, Estelle Midi. C'est bon.
14h07 sur RMC, RMC Story. On va passer à la dernière ligne droite du jour et c'est celle avant la Saint-Valentin, plus qu'une semaine avant la fête des amoureux. Et on va s'intéresser à ces couples que beaucoup de gens envient. Ce sont ceux qui se sont connus tout jeunes et qui sont restés ensemble toute leur vie. Mais est-ce que ça existe encore, Rémi ?
Oui, mais c'est de plus en plus rare. Déjà, se marier avec son premier amour est quasiment devenu une exception. D'après un sondage en ligne réalisé par le site mariage.net en 2022, seuls 19% des Français étaient mariés ou étaient en vivaient en tout cas avec leur premier amour.
C'est énorme, ça fait 1 sur 5.
19%,
ouais. Bah oui, ce qu'on vient de dire,
ouais. Bah oui, la plupart, 34% ont déjà connu, ouais, bah, il y a le déclaratif aussi. Oui. La plupart, 34% ont déjà connu un autre amour avant celui avec lequel ils sont en couple. 26% ont vécu 2 relations sérieuses avant de s'engager. 21% en ont même expérimenté 3 ou plus au préalable. Autre chiffre. Là, j'ai dit, c'était un sondage en ligne, c'est du déclaratif. Voilà, c'est un site internet qui est sérieux, mariage.net, mais bon. Il y a les chiffres de l'INSEE qui nous disent que la durée des premières unions, mariées ou pas, est de plus en plus courte. 5 ans après le début de la cohabitation, 20% des couples sont séparés. Ah oui. Au bout de 10 ans, 27% le sont. 50% des unions n'iront pas au-delà de 35 ans de vie commune, ce qui est déjà pas mal.
Déjà énorme.
Mais la question, c'est de savoir si on reste tout au long de sa vie avec la même personne. Les statistiques disent également qu'en France, un mariage sur 2 dure moins de 10 ans et que 15% des 25-65 ans vivent seuls. Qu'en 2013, il y a eu 130 000 divorces et 10 000 dissolutions de PACS. Qu'en 15 ans, le nombre de ruptures a bondi de 63%. Que c'est entre 40 et 45 ans que les gens se séparent le plus.
Mais oui.
Et que 65% des ruptures ont lieu durant la période des vacances.
Ah bon ?
Passer toute sa vie avec la même personne, ça arrive, mais c'est devenu une exception.
Et alors, passer toute sa vie avec la même personne, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis ? C'est la question que nous vous posons et je vais commencer avec Thierry Moreau qui vit avec la même personne depuis
33 ans.
C'est votre premier amour ?
Non, j'ai connu des gens avant parce qu'on s'est rencontrés, j'avais donc 25 ans, donc j'ai eu une vie avant. Mais c'était la première histoire sérieuse, oui.
Oh, c'est beau.
Mais moi je trouve que c'est plus, je placerai pas ça sur le plan religieux, enfer ou paradis. Je dirais que c'est plutôt du bonheur. Alors évidemment, il y a des moments difficiles et des moments moins difficiles, il y a des périodes où on s'engueule et des engueules. Mais je dirais que au bout d'un moment, on forme une véritable équipe et par rapport aux moments difficiles qu'on peut traverser dans une vie, que ce soit les problèmes avec les enfants, que ce soit les problèmes quand on perd des parents, etc. Le fait d'être à deux, déjà, c'est vraiment un truc qui est un ciment et qui est un truc très utile. Et puis, la deuxième chose, c'est que même après 33 ans, on continue de se découvrir, de se surprendre,
ah bon,
de rire, de
en fait, tu lui demandes pas ce qu'il y avait au petit déjeuner, quoi. Tu lui demandes pas ce qu'il y avait au petit déjeuner, tu sais, quoi. Tout ça, tu sais.
Je sais, mais justement, j'essaie de la surprendre en lui proposant quelquefois autre chose que je vais chercher à la boulangerie sans lui dire.
Ah d'accord.
Donc,
non mais ok.
Voilà, donc ça peut aussi être des petites choses comme ça.
D'accord.
Après, je me dis, moi je pense que c'est intéressant dans les statistiques qu'a donné Rémi, c'est les gens qui finissent seuls. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, aller dans un musée, voyager ou découvrir une expo, etc., tout seul, bah, j'aime mieux le faire à deux. Je trouve ça plus.
Oui, mais tu n'es pas obligé de le faire avec.
Je vais vous donner un exemple.
Tu peux le faire avec plusieurs femmes dans ta vie, faites ce que je veux dire.
Je vais vous donner un exemple très personnel et que je n'ai jamais vraiment raconté. Ma mère aimait beaucoup les voyages et mon père n'aimait pas les voyages.
D'accord.
Durant toute leur vie, ils ont très peu voyagé. Ma maman est décédée assez jeune, à 49 ans, et mon père n'a cessé de faire des voyages après. Okay. Bah, je pense qu'ils auraient mieux fait de les faire à eux deux, et ça aurait été plus. Et je sais qu'elle a beaucoup regretté de ne pas faire beaucoup de voyages à l'époque, et je sais que mon père en a fait beaucoup après, comme s'il essayait de rattraper un peu le temps perdu. Et je me dis que d'être à deux pour faire plein de choses, que ce soit visiter un musée, faire des voyages, etc., c'est un truc formidable. Et puis encore une fois, moi, je re-signe demain matin, quoi.
Ça, c'est très beau, Thierry. Mais après, à deux, vous n'êtes pas obligé. À deux, ça ne veut pas dire à deux toujours avec la même personne. Vous pouvez être à deux, mais avec plusieurs personnes différentes au fil de votre vie. Benjamin, vous, est-ce que vous voyez avec la même... Bon, évidemment, c'est compliqué. On adore Céline, votre épouse, mais
je veux dire... le gars, non, parce qu'on te changeait.
Oui, mais moi, c'est pareil. Peut-être que demain... Non, mais c'est vrai. Après 33 ans, on peut effectivement... Il peut se passer un truc, on n'en sait rien.
Ouais,
mais
bon, enfin, tu sens bien qu'après 33 ans,
quoi.
C'est pas maintenant qu'elle va te quitter. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a... Non, ouais, voilà.
Bon. Moi non plus.
Enfin, pour moi, c'est plutôt un idéal, si c'était la question. Pour moi, c'est plutôt... Voilà, c'était plutôt ça.
Je trouve qu'il y a pendant la tournée.
Il y a un moment qui est compliqué, c'est vous savez, quand on se met premier amour vers 16-17 ans, on croit vraiment que c'est pour la vie, ouais, on se le promet, etc. Et on commence les études, généralement il y en a un qui part vivre un peu loin, et en fait là c'est les zones un peu où en fait on change. Je trouve vers 22, 23, 24 ans on change, et c'est là où il faut savoir la petite rupture qui va bien. Alors que plus tard, moi je trouve il faut quand même avoir une, deux, trois petites rencontres avant de se mettre avec quelqu'un de solide. Je dis pas qu'il faut attendre d'avoir 45 ans pour se mettre avec la personne avec qui on va faire sa vie, mais en revanche le truc l'idéal qui était, enfin l'idéal, ce qui était le cas de nos grands-parents où ils se mettaient ensemble à 16 ans et puis ils se posaient pas de questions, ils n'avaient pas la possibilité. Oui. Ils n'étaient pas forcément amoureux d'ailleurs en se mettant ensemble, c'était plutôt organisé. Et bon, c'était pas non plus un bonheur, ils s'en accommodaient, on va dire. Moi je trouve quand même, enfin, si mes enfants plus tard me posent la question, ils me poseront pas la question, mais je leur dirais plutôt, franchement, entre 16 et 25, papillonne un peu, vois du pays, amuse-toi un petit peu.
Si, si, tu leur diras.
Oui, je sais pas s'ils m'écouteront. Après, en revanche, oui, moi je vois ça plutôt comme un idéal. Mon grand-père, qui aujourd'hui est décédé, a été 50 ans avec ma grand-mère, et un tout petit peu avant qu'il meure, je lui ai demandé, mais quel a été ton secret? Et il m'a dit, il faut être gentil, etc., et il faut aussi savoir fermer les yeux. Il m'a dit, et j'ai trouvé que c'était assez beau qu'il me dise ça. Faut aussi savoir faire des petites concessions et fermer les yeux. Donc, il m'a pas détaillé ce que ça voulait dire, mais j'ai compris, j'ai trouvé ça bien. Et voilà, la vie est longue, faut savoir faire des petits efforts de temps en temps.
Moi, j'ai vu mes grands-parents rester ensemble pendant plus de 50 ans, ne jamais se disputer. Ça me paraissait ovniesque.
Ouais, comme, ça c'est ovniesque, je suis d'accord. Une bonne engueulade quand même, ça ravigote.
Je n'ai pas suivi cet exemple, mais je veux dire, ça me paraissait incroyable. Fred Hermel, vous êtes tout seul. Enfin, je veux dire, vous n'avez jamais été longtemps avec votre.
Mon record en couple vivre ensemble, ça doit être 3 jours. Donc,
vous n'avez jamais vécu avec personne?
Non.
C'est possible?
La vie, quoi.
Enfin, la vie.
Incroyable, alors. À mon avis. Peut-être que je suis invivable, mais après, c'est...
Et moi, votre premier amour, par exemple, vous n'êtes pas dit « je vais rester avec elle toute ma vie »
Si, à chaque fois, j'ai cru au grand amour.
Enfin, 3 jours.
Ouais. Après, c'est la vie, mais après...
Mais est-ce que c'est un idéal pour vous?
Ah oui. Mm. Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, quand je j'envie beaucoup Thierry. Oh. Oui, bien sûr, oui, ça me fait grandement plaisir de voir Thierry, et quand il parle de
ça
Fred...
Ça peut encore vous arriver, vous savez, la vie n'est pas finie.
Non, bien sûr, mais après, je pense que j'aurais beaucoup de mal à vivre avec quelqu'un, parce que j'ai pris mes habitudes de vieux garçon jeune. Je trouve que c'est un idéal.
Après, tu peux rencontrer quelqu'un qui te fera changer tes habitudes
de vieux garçon. Peut-être, il est possible, je suis ouvert à tout.
Enfin, on lui souhaite bon courage, quand même.
Mais je me considère comme quelqu'un de très heureux, donc j'ai construit un bonheur en dehors du 2. Mais après, il se trouve que j'ai une vie passionnante, j'ai plein d'amis, ce week-end, j'ai pas d'enfants, mais j'ai réuni mes 4 filleuls. Il y a plein de choses.
Il y a d'autres
choses.
Bonheurs, quoi.
Il y a d'autres bonheurs, mais c'est vrai que j'envie vraiment, et j'admire ceux qui sont capables, comme Thierry, de passer un minimum, parce que c'est ton minimum, de 33 ans.
En vrai, je dis bravo quand même, Thierry, c'est admirable. Alain nous appelle d'Annecy, Alain qui est retraité. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, bonjour. Est-ce que vous êtes resté avec votre premier amour toute votre vie?
Non.
D'accord.
J'ai divorcé au bout de 36 ans.
Vous êtes resté 36 ans avec votre premier amour?
Ouais.
Et vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés?
J'avais 22.
D'accord. Et pourquoi vous êtes séparés?
Je pense que c'est l'usure.
D'accord.
simplement.
Ouais. Mais j'imagine quand même, Alain, quand on est avec son premier amour pendant plus de 30 ans, on se dit, bah, je vais rester avec toute ma vie, quoi.
Ah bah oui, mais après il y a des faits de vie qui vous dites bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que je passe la retraite avec, est-ce que je la passe pas, voilà. Hein? Donc voilà, c'est ce qui fait qu'à un moment bah, vous vous posez la question, est-ce que je divorce, est-ce que je divorce ou pas. Mais c'est sûr que ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Hein?
Et ils ont été beaux ces 30 ans de vie commune?
Ah bah oui, bah il y a eu déjà deux beaux enfants, donc voilà. Non, puis bon, vous restez pas de toute façon 36 ans avec quelqu'un, si c'est le bagne, ou faut être bateau.
Mais Alain, est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie? Parce que quand on reste 30 ans avec quelqu'un, c'est difficile de se défaire de ses petites habitudes, vous connaissiez l'autre par cœur, pour refaire sa vie c'est compliqué, non?
Surtout quand on arrive à mon âge, à 58, je veux dire, le temps presse.
Ouais, mais vous allez retrouver. Je suis donc, pas inquiète, Alain.
Voilà, j'ai retrouvé.
Bon, ah bon,
voilà.
En plus.
Bon, après, vous faites une expérience, vous en trouvez une deuxième. Ouais. Mais après, c'est sûr que vous cherchez vraiment la bonne personne. Vous voulez pas refaire,
oui.
Je dirais, voilà.
Les mêmes erreurs.
Vous faites deux, trois expériences, malheureusement, malheureuses, pour après retrouver la bonne. Voilà.
Eh ben on espère que ce sera la bonne. En tout cas, Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous voyez ce que vous pouvez en dire si vous n'êtes pas gentil, Thierry?
Hein? Ouais, 36 ans, je suis.
Ouais. Ben oui, exactement. Thierry, nous allons voir si votre exemple est le bon exemple. Puisque nous sommes avec Véronique Cohn. Elle est psychologue, psychothérapeute et spécialiste de la relation amoureuse. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Véronique, pouvez-vous répondre à cette question? Rester avec la même personne toute sa vie, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Est-ce que c'est souhaitable en tout cas?
Alors oui et non, peut être un chemin intéressant, parce que le couple longue durée va apporter des éléments de stabilité quand ça se passe bien, quand ils dépassent les crises ensemble. Donc ça veut dire quoi? C'est un représenté du nid, du confort, du cocon, de l'endroit d'épanouissement, du soutien aussi, hein, quand on vieillit. Et donc
c'est un peu ennuyeux quoi.
Oui, non, parce que c'est aussi seul, se confronter à la solitude et au vide existentiel, c'est dur. À deux, il y a quelque chose de la complicité, du partage, de la tendresse. Donc il y a plein d'éléments qui renvoient une sensation de sécurité qui peut être chouette en fait. Donc ça va indiquer un chemin de stabilité. Voilà. Alors par contre, ceux qui sont amenés, qui ont des destinées, ou justement, ça va être plutôt des échecs ou des abandons ou des histoires de maltraitance, enfin des histoires compliquées où ils doivent lâcher l'affaire du couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ont à travailler l'autonomie. Ça va les obliger quelque part. Le chemin, ça va être de travailler sur l'individuation, sur l'autonomie, sur faire sans l'autre, que ce soit pas une nécessité, et donc de trouver ces espaces de faire avec la solitude. Et comme il y en avait un qui disait mais moi du coup j'ai une solitude choisie, une solitude où vraiment je trouve mon bonheur. Bon, j'ai quand même l'idéal du couple certes, mais je sais être autonome en fait. Et donc ce sont deux chemins, deux routes différentes. Et pour moi, les personnes qui ont une stabilité dans leur couple longue durée, qui ont réussi à ça, parfait, mais ça veut dire que leur point de fragilité, leur système de répétitif, n'est pas leur faille, n'est pas à cet endroit là alors peut-être que ça doit être sur le pouvoir, sur l'image, sur d'autres, il y a d'autres failles ailleurs, mais le couple n'est pas un terrain de jeu de répétition, de choses à travailler, à faire croître en fait, voilà.
Mais Véronique, comme tout à l'heure avec Benjamin Muller, on disait que nos enfants, nous on aimerait leur dire, ne te mets pas en couple tout de suite, amuse-toi avant. Alors que je pense qu'il y a 20 ans, au contraire, on disait, ma chérie, si tu trouves le bon, tu restes. Bon, aujourd'hui on a un discours un peu différent. Est-ce qu'on a raison de tenir ce discours à nos enfants, de leur dire, écoute, amuse-toi, t'auras bien le temps de te mettre en couple, ou alors c'est pas bien du tout?
Bah, si, d'ailleurs, ils le font, je crois que c'est...
Ils sont qu'on leur dit.
Il y a quelque chose, dans notre époque, il y a quelque chose de pas rater d'expérience. Donc, de faire des expériences, pour savoir ce qu'on veut, en fait, hein. Et pour pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est vrai que l'âge, c'est... Enfin, les jeunes, ils se mettent plus en couple tout de suite parce que justement, ils se disent, on va faire des expériences pour enfin voir si c'est sérieux ou pas. Et on est dans une période où on est beaucoup plus facilement en contact avec l'épanouissement individuel. Donc c'est pour ça que c'est lié en fait. Bon, c'est pas idiot, hein. Après c'est pas parce qu'on fait plein d'expériences, et souvent des expériences sexuelles un peu de consommation comme ça, que forcément on arrive dans la relation avec c'est mieux parce que parce qu'il peut y avoir aussi des expériences vraiment douloureuses et on sort un peu traumatisé et après on est en anticipation que l'homme peut être dangereux ou la femme va me lâcher. Voilà. Bon, donc c'est pas gagné non plus de faire plein d'expériences avant. Hein. Ça veut pas dire que ça va être salutaire, quoi.
Rémi. Non, parce qu'il y a ce côté-là, effectivement, on vient de parler, d'employer un mot, consommation, mais c'est vrai que moi je suis père de famille aussi. On sait que les jeunes aujourd'hui sont très dans le zapping, dans ouais, le,
on a parlé d'amour. On a pu l'être aussi.
Hein. Non, mais oui, bien sûr, mais bref, on a parlé d'amour Kleenex. Aujourd'hui, il faut consommer, on va vite, on se dépêche. Quand ça va pas, on passe à autre chose. Je sais pas s'il y a cette tendance-là, je sais pas, je pose la question.
Ça peut être un peu traumatique, quoi. C'est parce que où est le cœur et la vulnérabilité du cœur là-dedans. Donc, si c'est pour c'est avoir bon. Des brisures de cœur et des abîmes, et on arrive dans la relation après avec des anticipations négatives, c'est pas forcément le mieux, quoi.
Alors, on a plein de gens qui nous appellent pour nous raconter leurs histoires, de belles histoires, franchement, il faut le dire. On a Gilles, notamment, qui a 66 ans et qui nous appelle de Lons, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour,
Le petit accent, on adore. Gilles, vous êtes avec votre épouse depuis combien de temps?
Eh bien, c'est très simple. Nous connaissons depuis 47 ans et on est mariés depuis 44 ans maintenant.
Et c'est le paradis?
Ah, ça se passe très bien. Mais j'ai une maxime quand on m'en fait la remarque. Je dis, c'est très simple. Mmh. C'est moi le patron. C'est elle qui décide.
Là, j'aime bien. Voilà. Ah, j'aime bien.
Voilà, tout simplement parce qu'il faut que la communication passe. D'ailleurs, c'est bien simple, les vendeurs de voitures vous le diront. Souvent, le modèle de voiture, c'est monsieur, mais la couleur et les options, c'est toujours madame. Hein.
Ouais, donc, au final, c'est nous, quoi.
Ah oui, non, quelque part, c'est vrai. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que quand on va au restaurant, par exemple, elle regarde la carte, moi je regarde la mienne. Déjà, avant que j'ai fait mon choix, elle l'a fait pour moi. C'est déjà ce que j'aime et ce que je vais prendre.
Ah, ça, j'adore faire ça au restaurant. Je trouve ça génial de deviner les plats que va prendre l'hôtel. C'est là où vous voyez si vous connaissez bien ou pas. Mais Gilles, vous disputez quand même ou pas du tout?
Bien sûr que ça arrive, qu'on connaît des prises de bec. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Et puis, on n'est pas rancunier ni l'un ni l'autre. Bon, mais puis, généralement, c'est pas non plus pour des histoires extrêmement graves. C'est vraiment pour des bricoles. Mais bon, ça entretient la flamme. Mais non, surtout communication et complémentarité. D'ailleurs, souvent, on a des réflexions. L'autre répond avant vous. On allait faire la même remarque sur le même sujet.
Ça, c'est
oui,
bon. C'est beau, ça.
C'est extraordinaire, d'ailleurs.
Mais Gilles, jamais un petit coup de canif dans le contrat?
Non.
Jamais d'envie. Il n'y a jamais un moment dans ces 44 ans où vous n'êtes pas dit « Bon, là, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, je l'aime et tout ça, mais quand même, ce serait pas mal d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. »
Écoutez, je vais vous dire. J'ai travaillé dans la banque et j'étais sur un territoire de 11 départements. Donc, ça m'est arrivé dans ma carrière, au fur et à mesure de mes différentes fonctions, de me balader. Entre Bordeaux, Nyon, Limoges, partir plusieurs jours, être avec d'autres collègues, féminine, etc., d'avoir des formations ou autre, jamais le moindre coup de canif. Je le jure sur la tête de mon petit-fils.
Non, n'allez pas jusque-là, on ne sait jamais.
Ah non, non, sûr. sûr. Et la confiance est mutuelle. Ça, c'est vrai que c'est important. Parce que je pense que ceux qui ont un conjoint qui papillonne, ça ne doit pas être simple, quand même. Non, nous, non. Honnêtement, la confiance est là. Et puis elle reste là. Non, on est très bien ensemble. On est à la retraite ensemble parce qu'on est tous à 2 jours de moins que moi. Vous voyez, elle est plus jeune. À 2 jours, pile pour aller, on est né la même année, à 2 jours d'écart. Mais donc, ça fait. Non, on a tout vécu ensemble.
On sent heureux, en tout cas, Gilles.
Ah oui, mais de toute façon, bon, et puis vous savez, quelquefois, quand on prend de l'âge, on parle quelques petites pépins de santé, quelques petites bricoles, etc. Savoir avoir le soutien de l'autre, c'est très important. Parce que très honnêtement, quand on se trouve tout seul dans un hôpital, ça doit pas être simple quand même. Hein.
Ben ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas, Gilles, d'avoir été avec nous. Gilles, je pense que là, on le laisse là. Demain, on y est encore. C'est-à-dire qu'il est tellement amoureux qu'il pourrait parler de son épouse pendant des heures. Ah, la première femme à nous appeler sur ce sujet, c'est Sophie, qui nous appelle de Cambon, en Loire-Atlantique. Bonjour Sophie.
Bonjour Estelle.
Eh ben, ça
Bonjour.
Fait plaisir d'avoir l'avis d'une femme sur ce débat. Sophie, vous êtes en couple depuis combien de temps?
Depuis 95.
Avec la même personne, mais c'était votre amour de jeunesse ou pas du tout?
Non, ça n'a pas été mon premier amour.
Mais c'est l'amour de votre vie?
Mais c'est l'amour de ma vie.
Et comment le savez-vous, Sophie?
Eh ben, déjà, j'ai eu 3 enfants avec mon mari.
Oui.
Et c'était la communication qui nous a sauvés aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que dès qu'il y avait, il y a eu des hauts et des bas, et pendant les bas, justement, le fait de discuter de nos disputes, de s'excuser aussi, savoir s'excuser du mauvais comportement qu'on avait eu, je pense que ça a été salvateur pour notre couple. et aussi le fait de ne pas vivre trop près de la famille ou de la belle-famille.
Oui, ah. Oui, ça c'est important. Hein, Benjamin
oui,
Muller.
Oui, effectivement, on ne l'avait pas abordé encore.
Oui,
réussir à ne pas voir trop souvent la famille, je suis d'accord, c'est oui, sans doute le meilleur conseil.
Il y a un petit peu l'esprit de clan, des pièces remportées, oui. etc. Et je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis du concubin ou du mari. Ou de la femme ou de la concubine.
Faux,
et du coup, ça peut créer des tensions forcément dans le couple. Quoi. Donc, ça a été très, très bien. C'est vivons heureux, vivons cachés.
Ouais, ça, c'est pas mal. Merci, Sophie, en tout cas, pour votre témoignage. Et puis, bon courage à vous et que ça dure encore pendant plein d'années. Véronique Cohn, petite question que tout le monde se pose. Comment on sait si l'homme ou la femme qu'on aime est l'homme ou la femme de sa vie?
Eh ben ça, on ne peut pas le savoir.
Non,
on ne sait pas. Par contre, il faut vivre l'expérience. Moi, je dis toujours plonger dedans, parce que selon l'époque, je ne sais pas, vous avez 20, 30, 40, peu importe, on évolue toujours, on comprend des choses après coup quand ça s'arrête, la relation.
Ah oui.
Oui, on comprend des choses sur nous, hein, et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais donc, on ne peut pas savoir si ça va être l'homme ou la femme de ma vie. Par contre, on peut plonger dans l'expérience, et puis, au fur et à mesure, voir ce qui s'y passe, et est-ce que cette relation est là pour s'intensifier et se densifier, ou au contraire, elle va s'étioler et que de nouveau, mais de toute façon, il n'y a jamais d'échec. Hein. Il n'y a jamais d'échec ni de réussite en amour.
Ouais, on apprend à chaque fois.
On apprend à chaque fois. C'est un cadeau du ciel. C'est vraiment un cadeau.
Est-ce que les jeunes n'ont pas tendance à se quitter quelquefois pour des détails et ne pas surmonter certains obstacles qu'à une époque, on faisait des efforts pour les surmonter?
Est-ce qu'on est obligé de faire des efforts?
Mais bien sûr, parce qu'on est dans une société où on a dit de consommation, mais c'est surtout parce que on cherche plus l'épanouissement individuel que la sécurité de la famille. Pas pour tous, mais majoritairement, on cherche pas forcément à faire une cellule familiale qui va marcher. On fait plutôt des CDD que des CDI, parce que les femmes sont sur le marché aussi, et qu'elles sont plus indépendantes financièrement. Donc elles ont moins besoin de s'accrocher à un homme pour la protection et pour la sécurité financière. Ça joue beaucoup quand même, on n'est pas dans la même époque. Hein.
Exactement. Juste dernière question, Véronique Cohn, Fred est tout seul et il a envie quand même de trouver. Est-ce que vous auriez un petit conseil pour l'aider?
Mais Fred, c'est celui qui a un idéal de couple mais qui est très heureux tout seul, c'est lui?
Oui, enfin, il dit qu'il est très heureux tout seul.
Mais il a qu'à me rencontrer puis ça ira mieux. Puis voilà.
Voilà.
Ah, très bien.
Mais tu vois, mais voilà, ça va terminer en tournée manège cette émission.
Vous habitez où, Véronique?
À Montpellier.
Ah, c'est pas pratique, mais c'est pas
grave. Il y a le téléphone direct. Hein.
Oui. Okay. Et puis la distance, c'est pas mal, comme ça, il n'y a pas de routine. Ça, c'est bien.
Oui, c'est ça. Puis pour un vieux garçon comme moi, c'est parfait.
Et voilà, bientôt, Véronique. Tu vois, tout s'arrange. Merci, Véronique, d'avoir été avec nous. Véronique, comme psychologue, psychothérapeute et spécialiste de la relation amoureuse. On se retrouvera, bien sûr, très vite dans Estelle Midi. On vous a posé la question, quand même, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Rester en couple avec la même personne toute sa vie, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis, Rémi?
Paradis pour une forte majorité de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux. 72% de ceux qui sont prononcés donc sur les réseaux sociaux estiment que c'est un paradis et dommage pour les 28% restants.
Il n'y avait pas une place pour le purgatoire quand même.
Ou NXP, ne se prononce pas. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Elisa. C'est une auditrice qui a perdu son mari il y a 2 ans et qui n'arrive pas à toucher sa pension de reversion. Et puis il y aura également les immanquables, les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi, on est sur RMC, RMC Story, il est 14h32 et c'est l'heure d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une famille endeuillée et par Elisa.
Oui, en avril 2021, Agostinho, 64 ans, est brutalement emporté par le Covid. Ouvrier dans le bâtiment, il s'apprêtait à prendre sa retraite. Son épouse Elisa est dévastée, on peut l'imaginer. Près de 2 ans plus tard, sa douleur reste vive, vous allez l'entendre. Et comme si cela ne suffisait pas, Elisa doit se battre contre la machine bureaucratique française pour toucher la pension de réversion à laquelle elle a droit.
Ça a été un grand choc pour moi, pour mes filles, pour mes petits-enfants.
C'était...
Excusez-moi.
On s'attendait pas vraiment à ça.
Encore aujourd'hui.
Oui.
Et c'est dur. C'est très, très dur. Heureusement que ma fille était là, parce que moi, je connais rien à tout ça. Je suis qu'une femme de ménage, j'ai pas fait d'études. Et heureusement que mes filles sont dedans et qu'elles arrivent un peu.
Oui. Oui, du coup, on est le support... émotionnel et on s'occupe effectivement beaucoup de l'administratif parce que c'est hyper lourd.
C'est une situation très compliquée, hein, vous l'avez compris. La pension de réversion, elle existe pour tous les couples mariés. C'est une partie de la pension qu'Agostinho aurait dû en fait percevoir à la retraite et qui est reversée aux conjoints survivants, en l'occurrence Elisa. Sauf que dans son cas, on ne connaît même pas le montant parce que l'assurance retraite n'est pas allée jusqu'à le calculer.
Enfin, c'est invraisemblable. Pourquoi l'assurance retraite n'a pas calculé cette pension? Qu'est-ce qui bloque?
Alors, c'est le numéro de sécurité sociale qui bloque. Hein, on en a tous un, hein, de numéro de sécurité sociale. Ah oui, vous savez à quoi ça correspond. Ouais. En France, tout le monde l'a, il est unique et vous le conservez jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est le principe. Eh bien, Elisa, elle en a deux de numéro de sécurité sociale.
Comment c'est possible ?
Oui, oui. Et selon l'assurance retraite, c'est ça qui bloque. Écoutez bien, de 1976 à 1978, Elisa aurait travaillé et cotisé sous un autre numéro de sécurité sociale. Sauf que cette période ne correspond à absolument rien dans la vie de cette Portugaise arrivée en France bien avant. Et surtout, ça ne change rien à l'affaire. Sa pension de réversion n'est toujours pas versée.
Moi, je fais que des heures de ménage, j'ai pas un gros salaire. Voilà, pour eux, c'est rien, mais moi, même si c'est 50 euros par mois, c'est beaucoup pour moi. J'ai droit, donc je sais pas pourquoi ils mettent aussi longtemps à me donner ce qui m'est dû.
Mais que vous dit l'assurance retraite, Aménie ?
Alors, ce qu'on a découvert, c'est qu'Elisa n'est pas la seule, figurez-vous, à avoir deux numéros de sécurité sociale. Les doubles numéros, c'est assez rare, mais ça existe, nous dit-on. Normalement, c'est pas censé exister, hein, vous l'avez bien compris. Alors, attention, si comme Elisa, vous êtes née à l'étranger à la fin des années 50, écoutez bien ce qui suit, parce que ça peut vous intéresser. C'est à votre arrivée en France qu'on vous a attribué un numéro, et il suffit que l'assurance maladie ait fait la demande en même temps que votre employeur pour que ça crée un doublon dans les fichiers, et ça sans même que vous ne le sachiez. L'assurance retraite nous explique néanmoins qu'on finit toujours par s'en apercevoir parce que les doublons, ils finissent toujours par poser problème, notamment au moment où les assurés font valoir leur droit à la retraite en fin de carrière ou pour leur conjoint. Alors pour Elisa, on a pu intervenir auprès de l'assurance retraite. Ah. Ces deux numéros ont enfin été fusionnés. C'est ce qui prenait le plus de temps et ce qui était le plus compliqué, nous dit l'assurance retraite. Son dossier est désormais prioritaire, mais super. Quand même, l'assurance retraite n'a pas été en mesure de nous donner de date de versement pour cette pension de réversion et de montant. Donc évidemment, on va rester vigilant pour Elisa et puis pour apaiser à minima ce que l'on peut du deuil qu'elle a bien du mal à faire depuis deux ans désormais.
Puis espérons qu'il y ait la rétroactivité parce que là, il va lui manquer deux ans à Elisa.
Absolument, donc, ce sera rétroactif, tout à fait.
Eh ben merci beaucoup Amélie et merci d'avoir aidé Elisa. On continue bien sûr à suivre ce dossier. On parle d'un tout autre sujet demain.
Oui,
qui m'intéresse beaucoup.
Tout autre sujet. On parle sexisme à la Fédération française de football ou en tout cas différence entre filles et garçons.
Voilà, ça se passe dans le football amateur. On en parle demain. Amélie Rosic, merci. RMC s'engage pour vous. C'est tous les jours vers 14h30, 14h35 dans Estelle Midi. Et si vous avez raté la chronique d'Amélie, eh bien pas de panique. Vous la retrouvez bien sûr en podcast. C'est à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'application RMC et sur toutes vos applications de podcast. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, on parle de quoi, Rémi ?
On va parler notamment de ce drame, de cette catastrophe survenue en Turquie et en Syrie avec les derniers bilans de ce séisme. Et puis on va parler aussi de l'exportation du jour, une série très connue française qui va être réalisée par Georges Clooney, rien que ça.
Tu es Esco ?
Non, pas tout à fait. Presque.
Je suis gardien.
Pas loin.
Allez, dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h40 sur RMC, RMC Story, c'est la dernière partie d'Estelle Midi. Et dans cette dernière partie, eh bien, on vous donne les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. C'est maintenant.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et nous allons commenter ces informations avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. Et nous allons commencer, avec la satisfaction du jour.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, se félicite de ce qu'elle appelle la dédensification de Paris. La capitale a perdu en effet plus de 120 000 habitants en 10 ans, d'après l'INSEE. Mais l'élu n'y voit pas un phénomène négatif. Bien au contraire, c'est une nécessité, selon elle, pour qu'on puisse mieux vivre dans la capitale.
Écoutez, je trouve qu'elle est extraordinaire. Non, parce que c'est un jour une phrase, mais c'est incroyable. Elle est en train de surpasser Sandrine Rousseau. Benjamin Muller.
C'est kiff-kiff dans le match. Effectivement, on n'est jamais déçu. Elle parlait pas des rats, elle parlait des mignons petits rongeurs.
Surmulots.
Des surmulots de la capitale, la dédensification, qui en vrai, j'ai quand même l'impression, est un problème.
C'est un drame. Ah bah, il y a des fermetures d'école.
Une ville comme Paris où les gens partent, en fait. Et c'est vrai que c'est, vous avez des quartiers qui sont de plus en plus vides. Je veux dire, il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Anne Hidalgo à Paris, il faut vraiment que ça s'arrête.
Au prochain municipal, mais
faut pas parler trop tôt, parce qu'en fait, elle a pas totalement fermé la porte à envisager de continuer. Anne Hidalgo.
Donc d'arrêter, tu veux dire.
Quand il n'y aura plus d'électeurs.
Non, justement, elle avait dit en fait qu'elle s'arrêterait là. Sauf que dans la dernière interview du Parisien, quand on lui dit bon, on est d'accord, vous arrêtez les frais après, elle a dit oh, pas du tout. Enfin, la question n'était pas exactement posée comme ça.
Il faut que les gens votent pour elle, et là, quand même, ça me paraît.
Oui, non, parce qu'en fait, le fait est qu'on ne vote pas pour la maire de Paris, enfin, on vote arrondissement par arrondissement.
Oui,
Paris reste perdu. Virtuellement, elle avait perdu la dernière fois.
Oui, mais les arrondissements, il y a quand même plein d'arrondissements.
Mais la REM a fait n'importe quoi, et la REM a. La REM pouvait faire tomber. Et c'est clair. La REM pouvait faire tomber Hidalgo.
Qu'ils ont mis comme candidat.
Ouais, ils me font marrer maintenant, la REM.
La République en marche.
La République en marche.
Renaissance.
Oui, non, mais à l'époque, c'était la REM.
Oui, d'accord, mais personne ne dit la REM, écoutez.
On disait comme ça, ouais, la République en marche. À l'époque, parce que arrondissement par arrondissement, en fait, c'est Rachida Dati qui pouvait.
On ne va pas refaire les municipales, là.
Qui pouvait être maire de Paris. Mais la République en marche à l'époque, Monsieur Guérini, alors qu'il y avait possibilité de faire tomber Hidalgo.
On s'en fout, là.
Eh ben, non,
si.
Il y a un truc.
Non, mais c'est sûr.
Si, c'est pas de ça dont on parle.
C'est une réalité. Donc, quand aujourd'hui, du gouvernement, on essaye de parler d'une mise sous tutelle de Paris, ils avaient une possibilité.
D'accord.
C'est d'où l'intérêt de ma réflexion. Ils avaient une possibilité, c'est de se débarrasser d'Hidalgo il y a deux
ans. Thierry Moreau, c'est mieux, Paris sans habitants ou Paris avec habitants,
c'est surtout,
finalement?
J'ai trouvé une petite perle d'Anne Hidalgo qui voulait densifier Paris, parce qu'elle voulait densifier la ville à la construction d'immeubles de grande hauteur, parce qu'elle estimait que pour elle, une ville écologique, c'est une ville dense. L'étalement urbain n'est pas écologique. C'était il y a quelques années.
Ah oui.
Donc elle voulait densifier il y a quelques années. Maintenant, elle veut dédensifier. Pour justifier évidemment la fuite de tous les gens qui ne peuvent plus se loger à Paris pour des questions de moyens, pour des questions de pollution, de circulation.
Et dans un instant, la colère du jour. Mais tout de suite, on file à Courchevel retrouver Arnaud Souk, les mondiaux de ski, avec une très belle nouvelle dans le camp tricolore, Arnaud.
Avec une première médaille et avec une médaille qui sera en or pour Alexis Pinturo sur le combiné. Il vient de terminer son slalom. Tous les autres favoris sont passés et ils sont derrière. Donc Alexis Pinturo à domicile va apporter à la France son premier titre dans ces mondiaux, donc de Courchevel, Méribel, magnifique Alexis Pinturo sur ce combiné. On savait pas trop s'il serait en mesure justement d'être champion du monde comme il l'avait été en 2019 à Heureux. Et bien voilà la réponse donnée par celui qui pour l'instant passait une saison pas forcément formidable.
Merci beaucoup Arnaud Souk. On va passer à la colère du jour, Rémi.
Colère de Marine Le Pen, après ce qu'elle présente comme étant des manœuvres d'intimidation à l'égard de certains élus du RN. Au premier jour des débats sur la réforme des retraites hier, plusieurs parlementaires RN ont reçu des appels téléphoniques anonymes de personnes se présentant comme des personnels hospitaliers et leur faisant croire que l'un de leurs proches avait eu un accident. Objectif, que ces élus quittent en urgence l'hémicycle de l'Assemblée nationale où leur présence était nécessaire à ce moment-là pour que la motion référendaire du RN puisse passer.
C'est absolument scandaleux, Benjamin Muller.
Ça glace le sang, ça rappelle un peu les techniques que peuvent avoir des pirates informatiques un peu partout dans le monde. Vous envoyez des messages comme ça, réveiller des gens en pleine nuit pour leur faire croire des trucs comme ça. Là, ça glace le sang. Je vois pas trop quoi dire de plus que je pense que les gens qui font ça ne peuvent pas avoir d'enfants, parce qu'il s'agit d'appeler des jeunes parents pour leur dire votre enfant est à l'hôpital aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on touche, il y a de pire.
Il y a des plaintes qui ont été déposées.
Il y a des plaintes, évidemment. Là, on est en dehors de tout débat politique, tout débat, c'est juste dégueulasse, quoi.
Non mais c'est grave que la politique en arrive là quand même, Fred Hermel.
Oui,
franchement,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, on a pas des niveaux inconnus et Jordan Bardella était l'invité de Rédicace hier sur BFM TV et il nous a fait écouter un message vocal qui avait été laissé. Donc je veux dire, il y a des preuves en plus, quoi. Donc là, c'est humainement insupportable de faire des choses comme ça. Donc il y a des soupçons d'où ça vient, je vais pas me prononcer. Je ne me prononce pas, mais on espère vraiment trouver des coupables et que si ces coupables font partie de partis politiques, que les dirigeants de ces partis politiques s'excusent au nom de ces gens-là.
S'excusent et puis même soient sanctionnés, je pense.
Mais sanctionnés, mais qu'il y ait des sanctions aussi au niveau de ces partis, quoi.
Oui, c'est-à-dire que tous les moyens sont ouverts, que maintenant, on peut
contrôler
les gens, ce qui est terrible. Je pense que la police va assez facilement remonter les numéros. Je pense que ça va être assez rapide et on va assez avoir vite des réponses.
Oui, mais ça vous paraît pas quand même hallucinant d'en arriver là? On est sur la réforme des retraites. Alors oui, bien sûr, ça touche tout le monde. Oui, c'est un débat de société. Mais en arriver là, parce qu'en plus, on peut penser quand même. Déjà, c'est les gens qui sont bien informés, qui savent exactement quand le vote va avoir lieu. Donc c'est, je veux dire, c'est pas n'importe qui.
C'est quelqu'un qui connaît la dynamique parlementaire et le fonctionnement administratif du Parlement. Et puis il faut savoir à qui profite le crime. C'est juste ça.
Et ils ont appelé au moment où il fallait appeler pour que ces élus quittent les
chambres. Et t'as raison, il y a les numéros de portable et il y a aussi à chaque fois la circonscription. C'est-à-dire que par exemple, je crois que c'est une députée de Haute-Marne, on l'a appelée avec le nom de l'hôpital, de Haute-Marne, etc., où effectivement un de ses proches aurait pu être hospitalisé. Donc il y a quand même beaucoup de renseignements là-dedans, quoi.
Et je trouve que ça dessert la cause parce qu'au final, ça les rend quoi? Ça les rend sympathiques. On se met à leur place à ces députés. Je pense que c'était quand même pas l'idée de rendre sympathiques les
députés du
RN. Et là, on se met à leur place deux secondes, on se dit c'est dégueulasse. Donc je pense que ça dessert la cause. C'est vraiment pas. Après, quand on dit c'est de pire en pire et tout, oui, c'est vrai que c'est dégueulasse. Après, pendant les gilets jaunes, les gens qui allaient foutre le feu à des maisons de députés, c'était dégueulasse aussi. Ouais. Mais trois ans avant, du temps d'Éric Besson, le débat sur l'identité nationale, pareil, il y avait des violences. L'époque s'étire. Je veux dire, les violences,
ça s'améliore pas.
En tout cas, c'est vraiment pas malin, quoi. L'exportation du jour.
La série d'espionnage de Canal+, Le Bureau des légendes, va avoir son remake américain. La chaîne américaine Showtime a commandé une première saison adaptée de la création d'Éric Rochant pour la réaliser, cette production baptisée The Department. La chaîne a fait appel au comédien Georges Clooney, qui est également réalisateur.
Mais il sera à la place de Mathieu Kassovitz, alors?
Non, pour l'instant, moi, j'ai pas d'informations sur le rôle que jouera Georges Clooney, mais.
Il jouera un rôle, mais on sait pas lequel.
Et
il sera réalisateur.
On sait pas lequel. Il sera producteur, réalisateur. Voilà. Enfin, il pousse beaucoup le projet. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le Bureau des légendes, pour la première fois, a mis le focus sur ce qu'on appelle les agents infiltrés. Alors qu'avant, on avait l'image du James Bond. Ouais. Le type, il se présente, il dit bonjour, James Bond. Tout le monde sait qu'il est espion.
Il y a eu Homeland aussi.
Mais le fait d'avoir fait comme ça, cette série française qui s'est exportée dans 100 pays avant d'être vendue aux États-Unis, donc dans 100 pays, met l'accent sur eux. Et on sait que les Américains ont beaucoup recours à l'infiltration via ces différentes agences d'espionnage, et donc c'est un sujet en or pour eux. C'est pour ça qu'ils ont pris ce sujet à bras le corps, et je pense que ça peut être une très très bonne série.
Mais est-ce que c'est fréquent qu'une série française s'exporte comme ça, Thierry, ou ça arrive jamais?
Non, ça arrive. J'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais ça arrive. Il y a beaucoup de séries qui s'exportent, bien sûr.
France reste un pays où on crée avec de bons créateurs. Moi, ça me rassure ce genre de choses, parce qu'on chope tellement de trucs qui arrivent de là-bas, quand on arrive à leur fourguer quelques trucs, on peut applaudir.
Ouais, c'est le Canal, il faut le dire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de créations chez Canal, que ce soit Braco, le Bureau des légendes.
La création originale, ça a été au moment où le sport est devenu moins important parce que trop cher. Ils ont tout de suite, et ça, c'est Rodolphe Belmer qui a fait ça il y a déjà une vingtaine d'années, quasiment, a mis les créations originales à l'affiche, et ça a créé effectivement Braco et plein de séries qui se sont exportées dans le monde entier.
J'ai deux exemples de séries HPI.
Avec
Audrey
Fleurot.
Qui va être adapté aux États-Unis. Oui. Ouais. Il y avait une série qui était passée sur Canal+ il y a quelques temps qui s'appelait Les Revenants également.
Absolument.
Qui était adaptée aux États-Unis aussi.
C'est Lost, ça.
Non, rien à voir.
Lost, je rigole, ça va.
C'était l'inverse, Lost of Us qui va être adapté ou qui a été adapté en France.
Absolument.
Mais qui est une série américaine.
Et est-ce qu'il peut y avoir d'autres séries là, françaises, à votre avis, qui peuvent être adaptées à part HPI, Thierry, qui seraient adaptables? C'est ça que je veux dire.
Alors à chaque fois, adaptable, oui, mais il faut transformer. Si on prend Les Visiteurs et qu'on fait Les Visiteurs aux États-Unis, c'est de la merde.
Ils n'ont pas d'histoire.
Non, mais genre, Joséphine Ange Gardien, est-ce que tu peux la mettre aux États-Unis, par exemple?
Non, c'est pas possible.
Mais pourquoi? Tu pourrais.
Parce qu'avec leur nouveau délire wokiste et tout ça.
Ça dépend. Non, c'est pas ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut l'adapter avec les codes culturels du pays en question. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement transposer. Et quand il a vendu Les Visiteurs, il a très bien expliqué, le réalisateur, que c'était une bêtise, mais que c'était juste pour toucher de l'argent. Alors que là, le Bureau des légendes, ça va être adapté au fonctionnement des services secrets américains. Et c'est ça qui va être intéressant.
Chez les Ch'tis a été vendu. Il y a des remakes dans plusieurs pays, en Italie, en Espagne.
Mais ils l'ont fait avec quelle ville alors? Ils ont pas fait avec l'île.
En Italie, c'était le contraire. C'est-à-dire que comme l'Italie, ce sont plutôt les gens du Nord qui se considèrent comme mieux que les gens du Sud. Les Ch'tis là-bas, c'était les Napolitains. Donc ils avaient fait un. Ça s'appelait pas bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue au Sud.
Faut bien l'adapter.
Où ils retournaient la situation puisque les Pecnos que nous sommes, les Ch'tis pour là-bas, eux, c'est les gens du Sud.
Je sens très pensif, hein, Benjamin.
Parce que il se trouve que j'ai regardé Bienvenue chez les Ch'tis le week-end dernier, tout content de moi en me disant je vais montrer ce chef-d'œuvre qui m'a fait rire à mes enfants. Et ben, bide, ça vieillit.
Moi, je me suis marré.
Moi, je rigole plus. Je l'avais vu deux fois avant de sa sortie et tout.
Ça m'a fait rire.
Je vais te dire, quand t'es Ch'ti, tu ris deux fois plus. Parce qu'il y a plein de références que les non-Ch'tis, vous qui n'avez pas la chance d'être Ch'ti, vous ne pouvez pas comprendre.
Quelquefois, les remakes sont meilleurs. Schwarzenegger avec son histoire d'espionnage, c'était un film avec Thierry Lhermitte et Eddie Mitchell qui s'appelait, je sais plus comment.
Total Recall.
Pardon ?
Total Recall.
True Lies.
C'est ça. Et qui a été adapté aux États-Unis et qui était le film américain était plutôt meilleur que le film français.
Bon. L'ampleur du jour.
L'ampleur du jour, c'est 23 millions. Le nombre de personnes qui pourraient avoir été touchées par les séismes qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, chiffre avancé par l'OMS. Des personnes directement touchées par le tremblement de terre ou affectées par la catastrophe avec des habitations fragilisées, par exemple, ou encore des économies locales totalement paralysées. Selon le dernier bilan humain, plus de 5000 personnes ont été tuées lors de ces séismes et 25 000 au moins blessées, bilan provisoire.
Et 23 millions, c'est absolument énorme.
C'est absolument énorme. Le drame dans le drame, c'est que les conditions météo font que tous les pays aux alentours, y compris les pays où il y a des tensions politiques, envoient du monde. La Grèce, Israël, la France, évidemment, l'Espagne, de partout. Mais bon, il y a de la neige, les routes sont très compliquées d'accès, donc ça rajoute au drame. En plus, il fait très froid, donc les gens qui sont coincés, bon. J'entendais ce matin un sismologue qui parlait du Big One. Moi, le Big One, je savais en Californie, je savais que c'était, on l'attendait. Ouais. En fait, il parlait du Big One à Istanbul. Il dit que ça fait 10 ans qu'on sait, disait-il, que dans les 30 ans, il y en aurait un qui se trouve tout pile sur la ville d'Istanbul. Et en fait, il disait, là, ce qui vient de se passer, c'est juste,
C'est l'avant, quoi.
C'est l'avant catastrophe quand on voit ce qui s'est passé là, sachant qu'il dit que ça pourrait être bien pire, ça laisse quand même redouter une chose atroce. Et lui, il dit, en fait, c'est pas qu'on redoute que ça vienne dans les 20 ans. Il dit,
Mais comme à San Francisco, en fait.
Sauf que San Francisco, j'ai l'impression que c'est plus
la faille est, elle est en mer, la faille. Alors que là,
elle est sur la ville d'Istanbul.
Voilà, et bilan absolument dramatique. Alors, on va terminer là-dessus. C'est pas très gai.